Alors, je vais passer la parole à Marie Habibol, donc, qui est vétérinaire, qui est maître de conférences en génétique, qui partage sa vie avec quatre chats. Cinq maintenant. Et qui sont tous très drôles. Moi, je les ai jamais vus en vrai, mais je les ai vus en photo et ça donne envie de les rencontrer. Elle est membre du conseil scientifique du LOF. Elle est désormais basée, donc l'unité de médecine préventive de Vétagro-Sup ou à Lyon. Elle y participe. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, ça ne me serait pas venu à l'esprit de demander une intervention comme ça sur la génétique, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la base de la médecine préventive chez le chat. Et que là encore, vous allez certainement découvrir que les chats ont pris une longueur d'avance sur les autres. À Marie.
Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être là pour discuter avec vous un petit peu de la génétique. C'est vrai que c'est une discipline dont on entend de plus en plus parler, quelle que soit l'espèce animale en fait. Et si le chien, c'est vrai, est un peu en avance sur le chat, désolé Anne-Claire, on a maintenant des outils de plus en plus pertinents pour travailler en génétique du chat et donc améliorer la santé des chats. Et on va en particulier parler des chats de race parce que on verra que les maladies héréditaires dans les espèces domestiques ont des caractéristiques qui font que on peut les étudier plus facilement chez les animaux de race. Ça ne veut pas dire que il y a plus de maladies héréditaires chez les animaux de race. Ça veut simplement dire qu'on a une structuration génétique dans les animaux de race qui fait qu'on a maintenant les outils pour analyser et rechercher les gènes et les mutations en cause. Alors tout d'abord, je vais faire une introduction sur les progrès de la génétique féline, et puis après on verra comment on peut dépister les maladies héréditaires. Et puis, en termes de médecine préventive, il y a aussi un dépistage génétique qui peut être extrêmement pertinent, qui est celui du groupe sanguin. Donc, je l'évoquerai juste. Et puis, on terminera vers le futur de la médecine féline, à savoir la médecine personnalisée et avec la recherche des mutations personnelles de chaque individu. Alors, tout d'abord, les progrès de la génétique féline. Alors, sans vous faire offense, je vais juste rappeler quelques petites notions, simplement pour être sûr qu'on parle de la même chose en termes de mots, de vocabulaire de généticien. Donc, le patrimoine génétique du chat, il est porté donc par ses chromosomes. Donc, notre chat domestique, c'est Felis catus, et il a 38 chromosomes qui sont organisés par paire. Et dans chaque paire de chromosomes, vous avez un chromosome qui a été hérité du mâle et un chromosome qui a été hérité de la femelle. Et puis, le long de ces chromosomes, on trouve les gènes. Les gènes, ce sont les unités de structure et de fonction du patrimoine génétique. Et chaque gène a son emplacement propre sur un chromosome, on appelle ça le locus du gène. Et puis, comme les chromosomes y sont organisés par paire, ça veut donc dire que pour un gène donné, un chat y possède deux copies d'un même gène, une copie qu'il a héritée du mâle, et une copie qu'il a de son père, et une copie qu'il a héritée de la femelle, donc de sa mère. Et lorsque les deux copies d'un même gène sont identiques, à ce moment-là, on va dire que le chat est homozygote. Lorsque les deux copies sont différentes, on va dire que le chat est hétérozygote. Donc les différentes copies d'un même gène, on n'appelle pas ça les copies ou les variants en génétique, on appelle ça les allèles. Donc là, vous avez un exemple où le chat, il a hérité de son père un allèle pour le noir et de sa mère un allèle pour le noir. Donc on va dire qu'il est homozygote pour le noir. Un chat qui aurait reçu un allèle noir de son père, un allèle chocolat de sa mère, on va dire qu'il est hétérozygote, il a deux allèles différents. Et puis un chat qui a reçu un allèle chocolat de son père et un allèle chocolat de sa mère, lui, il est également homozygote, il a deux allèles identiques, mais il faut préciser, il est homozygote pour le chocolat. Eh bien, la composition génétique du chat, au lieu de dire composition génétique, on utilise un autre mot qui est le mot génotype. Donc, j'utiliserai ce mot-là, ça réfère à la composition génétique du chat. Et puis, en fonction des copies qu'un chat a reçues de chacun de ses parents, eh bien, il va exprimer le caractère qui est gouverné par le gène en question. Et en fait, il y a des relations qui s'établissent entre les différents allèles d'un même gène. Par exemple, si on reprend le gène qui est responsable de la différence entre le pigment noir et le pigment chocolat, donc là, un individu noir, ici un individu chocolat, eh bien, un individu qui possède deux allèles qui sont appelés grand B, B c'est le nom du gène qui gouverne la différence entre noir et chocolat, et ce gène s'appelle Brown, eh bien, l'allèle grand B, il gouverne le noir. Un individu qui possède deux allèles grand B, il va être noir. Un individu qui, à l'inverse, possède deux allèles petit B étant l'allèle qui gouverne le chocolat, lui, il va être chocolat. Et un individu qui possède un allèle grand B qui gouverne le noir et un allèle petit B qui gouverne le chocolat, eh bien, phénotypiquement, donc visuellement, il est noir. Ça, ça veut donc dire que chez ce chat, c'est comme s'il ne portait pas, en fait, l'allèle petit B. On ne voit pas le résultat sur la robe du chat, mais il est quand même porteur de cet allèle petit B. Ce qui veut dire que, marié de façon judicieuse, il pourra engendrer des chatons chocolat. Donc, on va donc dire que l'allèle qui s'exprime, dont on voit le résultat sur le chat, il est dominant. Il prend le pas, en fait, sur l'autre. Ici, c'est petit B. Qui va rester caché, et cet allèle qui reste caché, on va l'appeler récessif. Alors avant l'ère de la génétique moléculaire, lorsqu'on avait un potentiel souci de maladie héréditaire et qu'on allait voir son vétérinaire pour demander un peu des conseils, eh bien, autant l'éleveur que le vétérinaire étaient un peu désemparés parce qu'on ne savait pas quoi faire vraiment. Et puis votre vétérinaire, il n'avait pas tellement de solutions. Tout ce qu'il pouvait vous dire, s'il y a eu quelques cas dans la lignée d'une même symptomatologie qui évoque potentiellement une maladie héréditaire, eh bien, évitez de remettre ensemble les deux parents qui ont engendré des individus atteints. Donc là, sur ce petit graphique, en fait, les carrés, ça représente des mâles, les ronds, ça représente des femelles. Et puis, quand on a un trait en travers, ça veut dire qu'on a un accouplement. Puis là, on a une portée avec six chatons. Ceux qui sont colorés en foncé, c'est ceux qui sont atteints. Donc, voilà, tout ce qu'on pouvait dire, c'est éviter de remettre les deux parents ensemble. Et puis, les chatons de la portée, là aussi, éviter de les mettre en reproduction. On ne peut pas vraiment dire plus. Et puis les parents, comme eux, ils étaient indemnes et puis que finalement, ils étaient quand même intéressants, on proposait ce qu'on appelle de l'outcross, c'est-à-dire qu'on mettait le mâle avec une autre femelle et la femelle avec un autre mâle, mais on déplaçait le problème. D'accord ? Et puis quand on avait des cas répétés d'une même anomalie dans une lignée, tout ce qu'on pouvait conseiller, c'était d'arrêter de travailler avec cette lignée-là. Donc ce n'était pas très satisfaisant en termes de conseils génétiques. Maintenant, il faut savoir que les progrès de la génétique moléculaire font qu'on a des outils extrêmement puissants pour identifier les gènes et les mutations qui sont derrière les maladies héréditaires, mais aussi derrière tous les caractères d'intérêt, tout ce qui est couleur et texture du pelage, par exemple. Alors, je ne vais pas vous détailler ces différentes stratégies qui sont très de la cuisine de laboratoire, simplement vous dire que ces stratégies, elles ont beaucoup évolué et que maintenant, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du séquençage de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on est capable de décrypter le patrimoine génétique d'un individu en un temps limité et pour un coût qui reste abordable. Ce qui veut donc dire que quand on a un individu atteint potentiellement d'une maladie héréditaire, on va pouvoir l'utiliser immédiatement pour commencer des analyses génétiques. Alors que il y a encore 5 ou 10 ans, on était contraint de recruter un très grand nombre de cas de la même maladie. Il nous fallait plusieurs dizaines de chats atteints, plusieurs dizaines de chats contrôle indemne pour pouvoir commencer des études. Maintenant, les choses se simplifient du fait de ces nouveaux outils. Et donc, on peut identifier plus facilement des gènes et des mutations. Alors, en termes de chronologie du développement de ces outils, c'est pas le chat qui est le pionnier en termes de génétique pour l'identification des maladies héréditaires. Il faut savoir que l'espèce entre guillemets modèle, l'espèce qui a été choisie au niveau international pour le développement d'outils performants et le séquençage du génome au départ, c'est le chien. Donc ça a commencé en 2003. Donc le chat est un petit peu décalé. On a commencé à avoir des outils à partir de en gros 2007. Et ça permettra d'expliquer pourquoi on a aussi moins encore de découvertes de gènes et de mutations chez le chat quand on compare au chien. Bon, il faut savoir qu'on est à peu près dans la même chronologie que le cheval, mais ça permet aussi d'expliquer une découverte moins rapide que chez le chien. Alors, quels sont ces outils ? Le premier de ces outils, vous avez dû en entendre parler, c'est ce qu'on a appelé le séquençage du génome du chat. En fait, le séquençage du génome du chat, ça veut dire qu'on a décrypté l'enchaînement des petits éléments de base qui constituent la molécule d'ADN, qui est le support du patrimoine génétique. Sauf que ça ne résout pas tout. On a fait ça à partir d'un chat, un seul chat. On dit séquençage du génome du chat, mais en fait, c'est séquençage du génome d'un chat. Et donc ce chat célèbre, c'est un abyssin qui s'appelle Cinnamon et qui a été donc séquencé en 2007. Et puis, beaucoup plus récemment, on a eu des outils pour décrypter le génome qui sont beaucoup plus performants, qui sont ce qu'on appelle des puces à marqueur SNP. Alors, ça s'appelle des puces parce qu'en fait, c'est des toutes petites surfaces, en général de verre, sur lesquelles on va pouvoir positionner l'ADN d'un individu et révéler sa composition génétique pour des milliers de ce qu'on appelle des marqueurs, qui sont des petites balises, un peu comme des bornes kilométriques le long de la route, et dont on connaît la position le long des chromosomes. Et ça permet d'identifier rapidement des régions chromosomiques qui sont impliquées dans des maladies héréditaires. Et puis, récemment, on a eu donc le séquençage du même chat, là, Cinnamon, mais de meilleure qualité, parce que la première séquence qui avait été produite n'était pas de très bonne qualité. Et ce qui est très important, qu'on appelle l'annotation des génomes, c'est-à-dire pouvoir dire à tel endroit sur tel chromosome, il y a tel gène et il sert à ça. Parce que la séquence brute, en elle-même, elle ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de savoir où sont positionnés les gènes et à quoi ils servent. Et puis, en termes de progrès, j'aimerais souligner deux initiatives, une initiative américaine et une initiative française, qui visent, du fait de ces nouvelles stratégies de séquençage dont le coût est amoindri, eh bien, à séquencer les génomes de nombreux chats, parce que pour le moment, on n'a que Cinnamon, donc c'est très réducteur quand on compare à la population de tous les chats. Donc, séquencer les génomes de tout un tas de chats, de races et de chats de gouttière, donc avec une initiative qui est soutenue par le LOLF et qui fait partie des investissements d'avenir, donc vous y aviez tous cotisé avec vos impôts, via un réseau de biobanques animales qui s'appelle le réseau CRB Anime. Et donc, avec Anne Thomas du laboratoire Antagène, donc nous portons la partie féline de cette biobanque qui s'appelle FeliDNA. Et donc, nous avons été très heureuses de savoir que notre projet était financé. Et donc, le séquençage devrait débuter, j'espère, d'ici la fin de l'année ou au plus tard, en janvier prochain. Et puis, une initiative de Leslie Lyons, donc, qui est Madame Génétique Chat aux États-Unis, qui est maintenant à l'université du Missouri, après avoir longtemps officié à l'université de Californie, et qui, elle, a de nombreux sponsors, que ce soit privés ou publics aux États-Unis, et qui, elle, a un projet très ambitieux qui est de séquencer 99 génomes de chats. Alors, elle en est à une quarantaine maintenant, donc c'est pas mal. Nous, notre projet français, c'est vrai qu'il est un petit peu plus modeste, on est à 14 chats qui vont être séquencés. Mais quand on aura groupé nos données, puisque l'idée, c'est de participer à un effort commun, eh bien, on en saura beaucoup plus sur à la fois les particularités raciales, les maladies héréditaires et également la phylogénie, avec toute l'histoire de la domestication du chat. Alors, si on revient aux maladies héréditaires, donc ça, c'est la page d'accueil d'une base de données qui s'appelle Omia, qui référence les caractères héréditaires dans les espèces animales. Et on y trouve le chat, et vous voyez que le chat est à la troisième position en termes de nombre de caractères héréditaires identifiés, avec un total de 339, 95 qui sont simples, c'est-à-dire gouvernés par un seul gène, et entre guillemets seulement 62 pour lesquels on a identifié le gène et la mutation. Si on compare au chien, vous voyez qu'on est quand même très très en retrait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de caractères héréditaires ou moins de maladies héréditaires chez le chat. Comme je vous l'ai expliqué, c'est simplement qu'il y a un décalage dans la production des outils qui permettent d'analyser le patrimoine génétique des chats. Et à chaque fois que vous avez un gène et une mutation qui sont identifiés, bah, potentiellement, ça peut donner naissance à un test ADN. Alors que ce soit pour une maladie ou pour un caractère, comme le poil court et le poil mi-long et long, c'est dans la même catégorie, ou les couleurs qu'on a citées, noir ou chocolat, par exemple. Alors pourquoi, quand même, globalement, on a un peu l'impression qu'il y a de plus en plus, en tout cas on entend de plus en plus parler des maladies héréditaires chez le chat? C'est simplement qu'il n'y a pas plus de maladies héréditaires maintenant qu'hier chez le chat, mais que, en fait, on a fait diminuer la pression de ce qu'on appelle les maladies environnementales, parce que nos chats sont beaucoup mieux suivis médicalement, ils sont vaccinés, ils sont mieux nourris, on les traite contre les parasites, et donc du coup, toutes ces maladies environnementales ne tuent plus ou tuent moins les chats, et donc ils ont le temps d'exprimer le reste, c'est-à-dire les maladies héréditaires. Et puis, il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte de l'intérêt très pertinent des chats en tant que modèle pour des maladies héréditaires équivalentes qu'on va trouver chez l'homme. J'ai moi-même travaillé sur une maladie qui s'est appelée la spasticité, qu'ensuite on a appelée la myopathie et que maintenant on appelle la myasthénie, puisqu'elle a été caractérisée au niveau génétique et on sait que c'est une myasthénie, qu'on trouve chez le sphinx et le rex d'Evon. Eh bien, cette maladie, elle existe chez l'homme. Et il se trouve qu'on a la même symptomatologie et qu'en plus de ça, on s'est rendu compte que les traitements qui étaient efficaces chez l'homme étaient aussi efficaces chez le chat. Donc, tout ce qui pourra permettre d'améliorer la santé des chats peut améliorer la santé de l'homme, et tout ce qui permet d'améliorer la santé de l'homme peut permettre d'améliorer la santé des chats. Donc, on dépasse très largement le cadre uniquement de la médecine féline. Et puis, si on prend les espèces de rente, à savoir les espèces de production comme les bovins, les caprins, les porcins, les volailles et autres, il y a un aspect économique qui fait que quand on a une lignée qui est un peu bancale à cause d'une maladie héréditaire, l'éleveur, il ne va pas s'acharner à sélectionner, essayer de comprendre. Il y a un intérêt économique, donc finalement, ces animaux-là sont moins conservés que chez les animaux domestiques qui vivent avec nous. Alors, ce qui est plus important de souligner, c'est que les maladies héréditaires félines ont des caractéristiques propres. La plupart du temps, elles ont un mode de transmission un petit peu particulier qu'on appelle autosomique récessive. Ça veut simplement dire que mâles et femelles sont égaux face à la maladie et transmettent la maladie dans les mêmes proportions. Donc il n'y a pas de distinguo entre les sexes. Et qu'en plus, dans ce mode de transmission, il existe des porteurs sains. Donc des individus qui, comme mon chat tout à l'heure, était noir, porteur de chocolat, là, c'est des individus qui sont sains, qui sont indemnes, mais qui portent la mutation responsable de la maladie. Et cette particularité, le fait que ces maladies sont plus fréquemment autosomiques récessives, c'est en particulier dû à trois éléments qui permettent de l'expliquer, ce qu'on appelle l'effet fondateur, c'est-à-dire que quand on a une maladie héréditaire dans une race, eh bien, en fait, tous les individus qui portent la mutation, qui sont malades ou qui sont porteurs sains, sont tous apparentés à un seul et unique individu, qui est le fondateur, chez qui est apparue cette mutation. Et les mutations, elles apparaissent spontanément. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Simplement, les pratiques d'élevage vont faire par la suite que, en sélectionnant de façon importante des individus sur des caractéristiques en particulier esthétiques chez le chat, et en faisant une réduction importante du nombre d'individus qui, à chaque génération, vont participer à l'élaboration de la génération suivante, il n'y a que entre 10 et 20% des reproducteurs qui, à chaque des naissances, des individus nés d'une génération en chat de race, qui vont devenir des reproducteurs. Donc c'est très peu. On est aux alentours de 25% chez les femelles et plutôt aux alentours de 10-15% chez les mâles. Donc à chaque génération, on a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'on sélectionne sur des critères qui sont intéressants, mais on oublie tout un pan de la population. Et puis le fait que, comme on travaille sur des races, ça c'est inévitable, on travaille sur des mariages consanguins. Puisque si on veut conserver les caractéristiques d'une race, eh bien forcément tous les individus de la race sont les descendants des individus fondateurs de cette race qui ont été retenus parce qu'ils présentaient les caractéristiques propres à la race. Et donc, on a toujours, même dans les races où on a des très grands effectifs et on fait très attention au mariage, eh bien, on a toujours forcément de la consanguinité. C'est propre à l'élevage des animaux de race. D'accord ? Eh bien, toutes ces caractéristiques font que, pour avoir des individus atteints de maladies récessives, ça veut dire que ces individus, ils portent deux copies de la mutation. Et pour porter deux copies de la mutation, ça veut dire qu'ils ont hérité une copie de leur père, une copie de leur mère. Et quand on porte deux allèles identiques, ça s'appelle de l'homozygosie, le fait d'être identique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la consanguinité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle favorise l'homozygosie. Donc en fait, la consanguinité, elle fait, en quelque sorte, elle agit comme un révélateur. Elle révèle la présence de mutations qui préexistent avant dans la race. S'il n'y a pas de mutation qui préexiste dans une race, vous pouvez faire toute la consanguinité que vous voulez, vous ne ferez jamais apparaître de maladie héréditaire. D'accord ? Il faut que les mutations elles soient là. Alors maintenant, comment on utilise les nouveaux outils que sont les tests ADN pour améliorer la santé des chats ? Les tests ADN ou tests génétiques qui permettent de dépister les individus atteints avant même la survenue des premiers symptômes. Vous avez des maladies qui apparaissent tardivement dans la vie du chat. Et puis, vous avez des maladies qui sont un petit peu particulières, c'est-à-dire qu'elles s'appellent dominantes à pénétrance incomplète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire qu'en principe, il suffit que le chat porte une copie de la mutation pour être atteint, Mais si jamais la pénétrance est incomplète, il arrive que des chats qui portent la mutation et qui donc sont génétiquement atteints devraient présenter des symptômes de la maladie, eh bien ne présentent pas de symptômes. Alors tant mieux pour eux. Seulement, ils portent la mutation quand même. Donc c'est des espèces de faux porteurs sains. Et du coup, ils transmettent. Donc ces chats-là, sans un dépistage génétique, c'est très compliqué de pouvoir les identifier et du coup, de pouvoir les écarter des programmes de reproduction pour éviter qu'ils perpétuent la mutation et qu'il y ait des chatons atteints dans les générations suivantes. Donc là, les tests ADN sont très intéressants. Et puis, ça permet de mettre en place un suivi. Il y a certaines, alors pas toutes, hein, puisque bien souvent, les maladies héréditaires, on est assez démunis en termes de traitement, mais il y a quand même quelques maladies qui peuvent bénéficier soit de traitements palliatifs, très, très rarement de traitements curatifs, mais très souvent de traitements palliatifs. Et donc, autant programmer un suivi de l'animal et mettre en place ce traitement de la manière la plus précoce s'il existe. Et puis, comme on l'a dit, la plupart des maladies chez le chat sont plutôt des maladies récessives, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles il existe des vrais porteurs sains. Et donc, dans ce cas-là, seuls les tests ADN permettent de dépister les porteurs sains. D'un point de vue pratique, c'est très simple, la réalisation d'un test ADN, parce qu'il n'y a même plus besoin maintenant de faire une prise de sang. Il suffit de faire un petit raclage buccal, donc à l'aide d'une brossette ou d'un coton-tige, ça dépend des laboratoires. C'est sans douleur pour l'animal, c'est très rapide. Normalement, ça ne provoque pas trop de stress. ça dépend des chats. Et du coup, ça permet d'avoir de l'ADN en quantité et qualité suffisante pour faire réaliser un test ADN. Alors, j'ai noté en rouge ici authentification du prélèvement. C'est pour vous signaler le fait que le LOF est engagé dans une démarche d'amélioration des informations de généalogie et de la qualité des reproducteurs. Et que donc, on peut maintenant faire inscrire sur les pédigrés, j'en reparlerai, les résultats des tests ADN. Mais pour être sûr que ce soit le résultat du test ADN du bon chat, il faut être sûr que ce soit le bon chat. Donc, il est obligatoire de passer par la case vétérinaire. Et seul le vétérinaire est dans ce cas-là habilité à réaliser la brossette ou le petit coton-tige, à vérifier l'identité de l'animal, ce qui veut donc dire qu'il faut que le chat il soit pucé ou tatoué. Pour pouvoir faire ce test ADN et pouvoir utiliser le résultat pour qu'ils soient inscrits sur les pédigrés. Alors ensuite, il faut choisir le test en fonction de la race, parce que les maladies héréditaires, elles ont une autre particularité, en plus d'être plutôt autosomiques récessives, elles sont très 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 fréquemment spécifiques de race ou de groupes de races apparentés. Ça, c'est également vrai pour le chien. C'est la particularité des maladies héréditaires. Elles ont ce qu'on appelle une agrégation raciale dans toutes les espèces qui ont été sélectionnées par l'homme et dans lesquelles on a des races. Tout simplement du fait de ce fameux effet fondateur, c'est-à-dire que les individus qui sont atteints dans la race, eh bien, ils sont apparentés à un unique individu chez qui est apparue spontanément la mutation. Cette mutation, elle s'est transmise à bas bruit puisque c'était des porteurs sains. Et puis à un moment donné, pas de chance, il y a deux porteurs sains qui se sont reproduits et qui ont engendré des chatons ou des chats adultes qui présentent les symptômes. Et puis il n'y a pas vraiment de raison qu'une mutation, elle passe d'une race à l'autre. Puisque si on est sur du chat de race, à part les races où il y a du métissage qui est autorisé, c'est-à-dire des croisements entre races, il n'y a pas de raison que la mutation, elle passe d'un Maine Coon à un Ragdoll, par exemple, parce qu'on ne croise pas des Maine Coon avec des Ragdoll. D'accord ? Alors, cette spécificité de race, elle est très nette chez le chien, elle est un peu moins nette chez le chat. Simplement parce qu'on l'a dit, hein, le chat, en termes d'animal domestique, c'est plus récent. En termes de sélection des races, c'est beaucoup plus récent que chez le chien. On a moins de races également. Et puis, on a voulu introduire des couleurs d'une race à l'autre, parce qu'il y avait des races qui présentaient des panels de couleurs très intéressants, puis d'autres races où certaines couleurs n'existaient pas. Et puis des fois, malheureusement, en introduisant une caractéristique d'une race à une autre, on a emmené en même temps des mutations qui sont responsables de maladies héréditaires. D'accord ? Alors, si on parle du sphinx, par exemple, la fameuse myopathie, myasthénie, spasticité dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est présente chez le sphinx et chez le rex d'Evon, simplement parce que l'histoire de ces deux races fait qu'elles ont été mariées au tout début de la création de ces races. En fait, les premiers éleveurs de sphinx ont utilisé des reproducteurs rex d'Evon. Et il se trouve que la mutation elle était présente chez le rex d'Evon, mais qu'à l'époque, on ne le savait pas, puisqu'il n'y avait jamais eu encore d'individu malade. Et que donc, la mutation allait passer comme ça, du rex d'Evon au sphinx. Ensuite, cet effet fondateur, il est responsable du fait que, pour une même maladie, vous pouvez avoir des mutations différentes dans des races différentes. Si on reprend l'exemple de la myocardiopathie hypertrophique, donc la maladie cardiaque du chat, eh bien, chez le Maine Coon, on a un dépistage ADN, puisqu'on a identifié une mutation qui porte le joli nom de A31P, dans un gène qui s'appelle MYBPC3. Et il se trouve que chez le ragdoll, on a également une mutation dans ce même gène MYBPC3, mais que ce n'est pas la même mutation. Vous voyez, elle s'appelle R820W. Donc en fait, ça veut dire que le test ADN du Maine Coon, il n'est utilisable que pour le Maine Coon, pas pour le ragdoll. Même chose, le test du ragdoll n'est utilisable que pour le ragdoll. Et pour toutes les autres races où malheureusement on a aussi de la myocardiopathie hypertrophique avec une fréquence assez importante, comme par exemple le sphinx, il n'y a pas de dépistage ADN parce que eh bien, les généticiens ont cherché dans ce gène MYBPC3, ont cherché aussi dans d'autres gènes, et on n'a jamais retrouvé ni la mutation du ragdoll, ni la mutation du Maine Coon, ni aucune mutation. Donc c'est un autre gène qui est impliqué. Et donc tant qu'on n'aura pas identifié ce gène et la mutation causale, il n'y aura pas de test ADN pour le sphinx. D'accord. Et puis quelquefois, c'est même beaucoup plus compliqué que ça. Si on prend les atrophies de la rétine, par exemple, eh bien, à l'heure actuelle, même si toutes ces maladies elles aboutissent au même résultat, c'est-à-dire que le chat va développer une cécité, il va devenir aveugle à plus ou moins long terme, eh bien, il y a des mutations dans des gènes différents qui peuvent être soit partagées par plusieurs races, comme la mutation historique, celle qu'on a découverte en premier, qui s'appelle la RDAC, qui au départ a été identifiée chez l'Abyssin et le Somalie, mais on s'est rendu compte en screenant différentes races que finalement elle était présente dans d'autres races, qui très probablement ont été croisées avec des Abyssins et des Somalies pour des histoires de couleurs, probablement pour introduire le cinnamon. Et puis, elle a été retrouvée après de façon assez fréquente chez le siamois et l'oriental. Et donc là, on pense qu'elle est diffusée dans d'autres races à la faveur de croisements avec des siamois pour introduire le color point dans d'autres races. Donc c'est comme ça que les mutations passent d'une race à l'autre. Eh bien, ce n'est pas la seule, puisqu'il existe une autre mutation. Alors là, elle est un peu particulière parce qu'elle est dominante, toujours chez l'Abyssin et chez le Somalie. Et qu'on a découvert que le Bengale qui pouvait porter la première mutation RDAC, en fait, il est plutôt plus fréquemment atteint par une autre forme d'atrophie de la rétine, qui pour le moment s'est avérée être spécifique du Bengale, mais on ne sait pas si dans 10 ans on ne trouvera pas cette mutation dans le Toyger, par exemple. Et puis, il existe aussi une mutation chez le persan. Donc ça veut dire qu'il faut absolument tenir compte de la race du chat quand on veut faire un dépistage ADN, sinon ça n'a aucun sens. Et puis ensuite, il faut bien sûr tenir compte de la maladie. On dépiste pour quelle maladie? Alors là, il y a une complication supplémentaire qui est que, on l'a dit, pour une même maladie, on peut avoir des mutations différentes dans différentes races, mais on peut aussi avoir des mutations différentes dans la même race. Si on prend les gangliosidoses, qui sont des maladies neurodégénératives qui conduisent invariablement au décès des chatons, eh bien en fait, chez le corate, on s'est rendu compte qu'il y avait deux formes en fait, génétiques de gangliosidoses différentes, même si ça donne les mêmes symptômes, qu'on appelle GM1 et GM2, avec deux gènes et deux mutations différentes. Ce qui veut dire qu'en pratique, il faut bien être au courant qu'il y a ces deux formes différentes. Jusqu'à présent, ce n'était pas très facile, puisque les deux tests n'étaient pas commercialisés en France. Maintenant, les deux tests sont commercialisés en France, donc ça veut dire qu'en pratique, il faut dépister ces reproducteurs pour les deux mutations. Et puis, quelquefois, vous avez également des mutations qui, en plus d'être spécifiques de race, sont spécifiques de lignée ou de pays. Parce que tous les pays n'ont pas forcément les mêmes standards pour une même race. Alors, si on prend, par exemple, le Burmese. Donc, le Burmese qui peut souffrir d'un syndrome qui s'appelle le BHD, donc le Burmese Head Defect, donc qui sont des anomalies crânio-faciales très sévères chez les chatons, et les chatons décèdent dans les quelques heures après la naissance, ou alors ils sont morts-nés. Eh bien, cette anomalie et la mutation qui va avec a été identifiée chez le Burmese américain. Donc, en France, nous, on a le Burmese américain et le Burmese anglais. Et la mutation, elle n'est pas présente chez le Burmese anglais, simplement parce qu'on le voit en termes déjà de type, les deux variétés, ou je ne sais pas, on peut vraiment appeler ça des races, mais en tout cas, les deux Burmises ont vraiment divergé, et qu'il y a eu une sélection sur une tête beaucoup plus ronde et une brachycéphalie, donc un nez beaucoup plus court chez le Burmese américain. Et puis, si on regarde le standard de la Tika, par exemple, ben, il n'y a qu'un Burmese, Et dedans, vous avez des Burmese américains, comme on les appelle en France, et des Burmese anglais. Et la mutation, du coup, elle peut également être présente chez des lignées qui étaient plus apparentées à des Burmese anglais. Donc, en fait, ce test ADN, il est recommandé en France pour le Burmese américain. Mais si on est aux États-Unis, par exemple, où on ne va pas forcément distinguer les deux variétés et où on peut avoir des mélanges entre les deux types de lignées, ben à ce moment-là, on va recommander le test pour tous les Burmese. Donc, il faut faire attention un petit peu aux différents types de lignées qui composent son cheptel. En tout cas, en France et sur les chats européens, tout ce qui est du Burmese de lignée anglaise, on n'a jamais mis en évidence la mutation. Le résultat d'un test ADN, donc, il est confidentiel, il est valable à vie. Par contre, il faut bien comprendre les limites des tests ADN pour pouvoir les utiliser. Un test ADN, ça dépiste une mutation, pas une maladie. D'accord ? Donc, c'est souvent ce qu'on reproche à un test ADN, c'est-à-dire que mon chat, il a la mutation, ben, est-ce qu'il va être malade ? Ben, ça, le test ADN, il ne peut pas répondre à ça. Le test ADN, il dit, le chat, il porte 0 copie de la mutation, 1 copie de la mutation, 2 copies de la mutation. Point. C'est tout ce qu'il dit, le test ADN. D'accord ? Donc, c'est valable pour une maladie génétique donnée, voire une forme d'une maladie génétique donnée. Et puis, ça renseigne du coup pas du tout sur les autres formes possibles de la même maladie, qu'elles soient héréditaires ou acquises. Et puis, dans certains types de tests, mais il y en a, en tout cas, il n'y en a pas en chat qui soit commercialisé en France, il peut y avoir une certaine imprécision, c'est les tests qu'on appelle les tests indirects, mais donc, je vous rassure, il n'y en a quasiment pas commercialisés dans le monde pour le chat, et en tout cas pas en France. Maintenant, ce qui est extrêmement important pour pouvoir interpréter le résultat d'un test ADN, c'est une donnée qu'on appelle la corrélation génotype-phénotype. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la relation qui existe entre le statut génétique, génotype, et le statut clinique, phénotype, du chat. C'est pas toujours très net, selon les tests ADN. Donc là, premier exemple, c'est la mutation qui est responsable d'hypokaliémie, donc avec un tableau de myopathie chez le Burmese, là aussi. Tout un tas de lignées différentes ont été étudiées dans le papier d'origine qui provient du labo de Leslie Lyons et qui a été publié en 2012. Et si vous regardez systématiquement tous les chats atteints, ils ont tous le même génotype. Ils sont tous homozygotes pour la mutation. La mutation s'appelle T. Donc ils ont tous deux copies de la mutation. Donc là, 22, 8, 2, 9. Et tous les chats qui sont indemnes, il n'y en a aucun qui porte deux copies de la mutation. Ils ont soit une copie, donc ils sont porteurs sains, soit ils sont indemnes, ils ne portent pas la mutation. Donc là, vous avez une corrélation entre le statut clinique atteint ou indemne et le statut génétique qui est parfaite, 100%. D'accord ? Donc ce test-là, c'est un test de diagnostic et dépistage. C'est-à-dire que si vous faites dépister votre chat, pour son statut génétique, vous pourrez dire quel statut clinique il aura pour cette maladie. Maintenant, dans certaines maladies, cette corrélation est beaucoup moins nette. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait quand j'étais à l'école d'Alfort avec l'unité de cardiologie. On avait étudié 96 chats Maine Coon qui étaient relativement jeunes. Donc ça, c'est une des limites de l'étude. Et on avait mis en relation leur statut génétique pour la mutation dans MYBPC3, là, la mutation de myocardiopathie hypertrophique, et leur statut clinique dépisté par échographie cardiaque, Doppler et Doppler intratissulaire. Donc le meilleur niveau de dépistage clinique pour la myocardiopathie hypertrophique. Eh bien, on s'est rendu compte que les chats qui portaient une copie de la mutation, donc hétérozygotes, qui sont censés être atteints, puisque la mutation est décrite comme dominante. Eh bien, finalement, il y en avait une très grande majorité qui ne présentait pas de signes cliniques de myocardiopathie hypertrophique. Il n'y en avait que 4 sur 38 qui présentaient des signes cliniques. Maintenant, les chats qui présentaient deux copies de la mutation, qui étaient homozygotes mutés, eux, c'était beaucoup moins favorable. Alors déjà, ils étaient moins nombreux, heureusement. Et il y en avait quand même 4 sur 6 qui présentaient déjà des symptômes à un âge relativement jeune. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que parmi les chats qui ne portaient pas la mutation dans le gène MYBPC3, Eh bien, on en avait quand même deux qui présentaient de la myocardiopathie hypertrophique, dont on avait exclu toute cause non génétique, comme de l'hypertension par exemple, ou des problèmes métaboliques. Donc là, quand on fait dépister son Maine Coon pour la myocardiopathie hypertrophique avec le test ADN, on est sûr de rien. Il est homozygote, sain, il ne porte pas la mutation, il peut quand même être atteint. Il porte la mutation en une ou deux copies, il peut quand même être indemne. D'accord ? Donc là, vous avez une corrélation entre le statut génétique et le statut clinique qui est faible. Seulement, il faut quand même voir le bénéfice du test ADN. Ce test ADN, il vous donne un risque. Parce que quand on est dans cette catégorie-là, on voit bien que le risque d'être atteint cliniquement, il est faible. Quand on est dans cette catégorie-là, pardon, il est également relativement faible, en tout cas à un jeune âge. Par contre, quand on est homozygote muté, c'est quand même très défavorable. D'accord ? Donc, conclusion, la corrélation génotype-phénotype, elle peut être forte à ce moment-là. Le test ADN est un test ADN de diagnostic et de dépistage. Mais si elle est faible, à ce moment-là, il ne faut pas parler de test ADN de diagnostic et de dépistage. Moi, je préfère test ADN de prédisposition. La mutation, elle prédispose à la myocardiopathie hypertrophique. D'accord ? Donc, c'est un facteur de risque. Alors maintenant, comment on gère les accouplements ? Je vais aller assez vite. Globalement, il faut savoir que pour les maladies donc, qui sont récessives, qui sont les plus fréquentes chez le chat, un individu qui est un individu porteur sain peut parfaitement être utilisé pour la reproduction, dans la mesure où marié de façon judicieuse avec un individu non porteur, il ne produira pas de malade. Alors certes, on continue à perpétuer la mutation dans les lignées, mais pourquoi se passer de ce chat-là si, par exemple, c'est un reproducteur qui présente tout un tas de caractéristiques particulièrement intéressantes pour la race, sous prétexte qu'il serait juste porteur d'une mutation ? Si on sait dépister la mutation et qu'on fait attention à ces accouplements, les individus hétérozygotes ne posent aucun problème. Bien entendu, un individu médiocre porteur d'une mutation, on ne va pas le conserver pour la reproduction. Mais c'est d'autant plus important de conserver ces porteurs sains que la mutation est fréquente dans la race ou qu'on a des problèmes de diversité génétique avec, par exemple, des races à tout petit effectif. Quand vous avez entre 5 et 20 naissances par an, ben, si vous avez 4 ou 5 chats qui sont porteurs sains, pourquoi les écarter d'entrée de la reproduction, surtout s'ils présentent des caractéristiques intéressantes et qui sont issus de lignées qui apportent un peu de diversité génétique. D'accord ? Maintenant, en ce qui concerne les maladies dominantes, donc là, il y a un principe de précaution qui serait que ben, tout individu qui porte la mutation est considéré comme génétiquement atteint, donc il vaudrait mieux l'écarter de la reproduction. Maintenant, on a vu que pour les maladies dominantes, il peut y avoir ce qu'on appelle de la pénétrance incomplète, c'est le cas de la myocardiopathie hypertrophique, où on voit que finalement, la plupart des chats qui portent la mutation n'ont pas de symptômes, en tout cas à un jeune âge. À ce moment-là, si la mutation est très fréquente dans la race, dire on stérilise systématiquement tous les porteurs de mutation, on risque d'avoir une diminution importante de la diversité génétique. Donc on prend des risques. Donc à ce moment-là, l'utilisation d'individus qui portent une mutation dominante, elle pourra être envisagée. C'est vraiment du raisonnement au cas par cas, en fonction des symptômes de la maladie. Est-ce que c'est très invalidant ? Donc, sous-entendu, je vais produire des chatons qui risquent de développer les symptômes. Est-ce que je veux prendre ce risque-là ? L'effectif de la race, est-ce qu'il y a suffisamment de reproducteurs dans la race pour conserver une bonne diversité génétique ? Et est-ce que la mutation est très fréquente ou pas ? Donc ça pourrait être envisagé, par exemple, pour sauver une lignée, pour un reproducteur de grande valeur, ou quand on est vraiment coincé et qu'on a vraiment une mutation très très fréquente. Alors un exemple historique, la polykystose rénale chez le persan, donc maladie que je pense vous connaissez bien, qui est décrite donc comme dominante, à pénétrance complète, ça veut donc dire qu'il n'y a aucun chat qui en réchappe. Quand le chat il a la mutation, il a des kystes dans les reins, il va développer une insuffisance rénale, par contre on n'est pas capable de dire à quel âge il va développer l'insuffisance rénale. D'accord ? Alors des reins polykystiques, ça ressemble à ça, c'est affreux, il n'y a plus du tout de structure, donc on comprend bien pourquoi le rein ne fonctionne plus. On s'est dépisté cette maladie par échographie abdominale depuis les années 90. On connaît le fait que cette maladie, elle est héréditaire depuis les années 90. Depuis 2005, on a en plus un test ADN. Eh bien, il n'y a pas eu de prise de conscience et de mise en place d'un schéma de sélection raisonnée et de diffusion de l'information entre les clubs de race, les éleveurs, les différentes fédérations félines. Ce qui fait qu'au début des années 2000, on est arrivé à une situation absolument catastrophique, où il n'y avait pas eu de prise de conscience pour la mise en place de schémas d'accouplement raisonné. On était entre 1% sur 3 et 1% sur 2 qui étaient atteints de polykystose rénale et qui donc allaient mourir d'insuffisance rénale. Arrivé à ce stade-là, même si la race est à grand effectif, il est hors de question de stériliser la moitié des reproducteurs. D'accord ? Donc il a fallu passer par une gestion des accouplements raisonnés pour conserver de la diversité génétique. On a dépisté les individus systématiquement destinés à la reproduction avec le test ADN. Deux individus indemnes donnent 100% de chatons indemnes, donc pas de souci. Ne jamais mettre à la reproduction deux individus porteurs de la mutation PKD, parce que là, ça donne 67% d'individus atteints dans la descendance. Et puis, il a bien fallu sauver des lignées. Donc, on a été amené à marier des chats atteints de PKD avec des indemnes et dépister systématiquement la descendance pour déterminer qui est porteur de la mutation, qui ne l'est pas, en moyenne 50-50, et ne conserver pour la suite de la reproduction que les individus indemnes, non porteurs de la mutation. Donc là, il a fallu passer par la production de chatons atteints de PKD, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Cette stratégie a apporté ses fruits. La fréquence de la mutation et de la maladie, alors en rose, c'est par test ADN, en noir, c'est par échographie, le dépistage, a baissé. Alors bien sûr, elle ne pouvait pas baisser de 42% en France à 10% en un an, hein, ce n'était pas question de faire ça. Mais vous voyez que maintenant, on est même, aux dernières données que m'a fournies Antagène, à moins de 10% d'individus PKD chez le persan. Donc là, maintenant, on peut se permettre de faire ça. On n'a plus de risque pour la diversité génétique, on ne produit plus de chatons atteints de PKD, on ne marie que des individus indemnes. Et à ce moment-là, on a 100% de chatons indemnes de PKD. Alors maintenant, les tests de dépistage, il y a tout un tas de laboratoires qui proposent des tests de dépistage. Vous avez des variations dans le type de prélèvement, dans le prix, dans le temps moyen d'analyse, dans les services, et surtout dans l'authentification du prélèvement. Donc si vous souhaitez, en tant qu'éleveur, faire inscrire sur les pédigrés que le chat a été dépisté ADN pour telle ou telle maladie. Ici, vous avez un exemple, c'est indiqué là, et puis c'est également indiqué, bon là, on ne voit pas parce que c'est trop petit, mais c'est indiqué sur les pédigrés. Eh bien, il faut se tourner vers un laboratoire qui va indiquer sur son certificat ADN que c'est bien le docteur vétérinaire Intel qui a effectué le prélèvement. Tous ne le font pas. Alors, l'autre outil de la génétique qui peut être intéressant en médecine préventive, c'est l'identification ADN et les contrôles de filiation. Alors, l'identification ADN ou profil ADN, ça sert à certifier une identité. Donc, si le chat n'est pas un individu reproducteur, ça ne présente aucun intérêt, parce qu'il a déjà une puce d'identification, donc ça suffit. Maintenant, si on fait identifier ADN des reproducteurs et leur descendance, on va pouvoir vérifier les filiations et certifier les pédigrés. Donc là, même contrainte, on est obligé de passer par son vétérinaire pour réaliser la petite brossette buccale, c'est exactement le même principe. Et on obtient des profils ADN qui ont cet aspect-là. Alors, c'est pas très très parlant, on est d'accord. C'est pas très très parlant, et justement, ça n'a pas beaucoup à parler parce qu'en fait, il n'y a pas d'informations à en tirer. C'est-à-dire que ces combinaisons de lettres ou de chiffres, ça dépend des laboratoires, ils correspondent aux deux allèles, un hérité du mâle, un hérité de la femelle, que porte un chaton, mais pour des régions qui sont situées sur les chromosomes qui ne sont pas des gènes. Du coup, il n'y a aucune information ni sur les maladies héréditaires, ni sur les couleurs, par exemple. Alors pourquoi on a choisi des régions qui ne sont pas des gènes? On appelle ça des marqueurs microsatellites. Simplement parce que dans les gènes, il y a un niveau de variation qui n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir distinguer des chats entre eux. Alors que dans ces régions chromosomiques qu'on appelle des marqueurs microsatellites, on a énormément de variations. Et en faisant une combinaison d'une quinzaine de ces régions, on est sûr à plus de 99% d'avoir un profil ADN qui est unique pour un chat donné. Deux individus pourraient avoir le même profil ADN s'ils sont jumeaux. C'est tout. D'accord ? Donc pour avoir un niveau de fiabilité important, on est obligé de passer par ces fameux marqueurs. Donc le principe pour les contrôles de filiation, c'est que ici donc vous avez le profil ADN du père, le profil ADN de la mère et le profil ADN de la portée. On vérifie que chaque chaton a bien récupéré un allèle de son père et un allèle de sa mère. Donc là le chaton il est AA, il a récupéré un allèle de son père ici, un allèle de sa mère là, donc ça c'est compatible. Et on fait ça pour une quinzaine de marqueurs. Et le laboratoire va rendre le résultat en disant la filiation est compatible. Du coup, vous allez pouvoir trouver deux nouveaux sigles sur les pédigrés maintenant. Un sigle qui est DNA pour ADN. Ça veut juste dire le chat a été identifié ADN, donc il a son profil qui a été réalisé. Et puis le deuxième sigle, c'est DNA comp. Le profil du père a été fait, le profil de la mère a été fait, le profil du chaton a été fait et la filiation a été vérifiée. Il est compatible. Alors, ça présente l'intérêt de certifier le pédigré, c'est-à-dire qu'on est sûr des informations qu'il y a sur le pédigré. Et ça présente aussi un intérêt pour les maladies héréditaires, c'est-à-dire que si vous avez des persans, que le père est dépisté indemne de PKD, la mère est dépistée indemne de PKD, que l'on fait une vérification de filiation sur les chatons, il n'y a pas besoin de faire pratiquer le test ADN de dépistage PKD chez les chatons. Puisque si les deux parents ne portent pas la mutation, et qu'ils sont bien les deux parents, eh bien, aucun des chatons de la portée ne peut porter la mutation. D'accord ? Donc à partir du moment où les filiations sont vérifiées, on va pouvoir avoir des résultats de test ADN par filiation, c'est-à-dire qu'on est sûr que la mutation n'a pas pu être transmise. Et puis l'autre outil que l'on va pouvoir utiliser en médecine préventive, alors là on a évité de produire des chatons atteints de maladies héréditaires, maintenant on peut éviter des accidents transfusionnels ou ce qu'on appelle l'érythrolyse néonatale. Alors, ce phénomène, il se produit lorsqu'il y a une incompatibilité entre le groupe sanguin de la mère et le groupe sanguin des chatons qu'elle porte. Et c'est en particulier le souci avec le groupe sanguin qui s'appelle le groupe sanguin B. Alors, chez le chat, il y a plein de déterminismes du groupe sanguin, un peu comme chez l'homme, mais il y a un déterminisme qui est le déterminisme A, AB ou B. Donc, trois groupes sanguins. Et génétiquement, on est capable d'identifier l'allèle qui s'appelle petit b, qui est responsable du groupe B. Mais on n'est pas encore capable de déterminer génétiquement la différence entre le groupe A et le groupe AB. Donc le résultat du dépistage ADN du groupe sanguin, il va simplement vous permettre de savoir si votre chat il est du groupe B ou s'il est porteur de l'allèle B ou enfin non porteur. Ça suffit quand même pour pouvoir faire attention à ces mariages. Alors, vous voyez que c'est tellement important que maintenant, ça a été rajouté. Très fréquemment, les laboratoires le rajoutent dans les profils ADN, le dernier marqueur, entre guillemets. Ici, en fait, c'est le groupe sanguin. Parce que lorsque vous avez une chatte qui est de groupe B, si jamais elle porte des chatons qui ne sont pas de groupe B, elle va, en fait, produire des anticorps contre les globules rouges de ces chatons. Ces anticorps, ils vont être présents dans le colostrum, donc le premier lait. Et si jamais les chatons boivent le colostrum, les anticorps vont attaquer leurs globules rouges et vont détruire les globules rouges. Et donc les chatons ils vont souffrir de ce syndrome qui s'appelle l'érythrolyse néonatale pour destruction des globules rouges. Et dans les cas les plus graves, ça conduit à la mort des chatons. Donc dans ce cas-là, si on a une chatte du groupe B, eh bien on choisit un mâle du groupe B et il n'y a aucun souci particulier. Donc en fait, ce qui est très important, c'est vraiment de déterminer si le chat, il est de groupe B ou pas, en tout cas les femelles. Donc en fait, le dépistage de l'allèle petit b par test ADN, même s'il est moins précis dans certains cas que le dépistage du groupe sanguin avec un test sanguin, avec la petite goutte de sang, eh bien suffit pour ajuster ces accouplements et éviter la catastrophe de l'érythrolyse néonatale. Tous ces nouveaux outils de médecine préventive, ils découlent de la découverte de gènes et de mutations impliqués soit dans des caractères d'intérêt, comme le groupe sanguin, soit dans des caractères qu'on appelle des caractères délétères, c'est-à-dire des maladies héréditaires. Et tout ça, ça a été permis grâce au développement d'outils de génétique, dont on a vu que le chat était un petit peu en retard, mais globalement, il est en train de bien rattraper son retard, en particulier avec ces nouvelles initiatives de séquençage de génomes entiers de chats de différentes races, eh bien, on s'achemine progressivement grâce à l'amélioration des techniques de biologie moléculaire, à la possibilité de pouvoir faire comme ce que l'on fait maintenant presque systématiquement dans les gros hôpitaux chez l'homme, en termes de consultation de génétique. Quand il y a un individu qui rentre et qui est suspect d'une maladie héréditaire, on séquence son génome. Alors ça coûte quelques milliers d'euros. Ça induit des difficultés derrière d'analyse, parce que finalement, on va tomber sur des milliers, voire des millions de variations dans l'ADN de cet individu, et il va falloir corréler ces variations aux symptômes qu'on observe chez le patient. Mais globalement, grâce au développement des outils de la génétique et au fait qu'on constitue des cohortes très importantes d'individus qui sont séquencés, ce qui fait qu'on va pouvoir comparer notre individu atteint avec plein d'individus indemnes qui sont très différents génétiquement, et donc éliminer toutes les variations qui sont partagées entre le patient et les individus contrôle et qui ne sont donc pas des variations causales pour la maladie, on arrive à identifier des mutations à partir d'un seul individu. Donc c'est du conseil génétique personnalisé, et on s'achemine vers cette stratégie chez le chat. Alors c'est pas pour demain, mais c'est pour les années à venir. Il faut vraiment, vraiment y penser. On va arriver à un stade où un individu présentera un phénotype, donc un tableau clinique de symptômes particuliers. On pourra, le vétérinaire pourra envisager de dire, on séquence le chat pour rechercher les variations dans son ADN. Ah, il a une mutation dans ce gène-là. Donc en fait, ces symptômes sont dus à ce gène-là. Et ce gène-là, on sait que il a une implication dans tel phénomène physiologique, on a des cibles thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments qui agissent sur ce phénomène physiologique, donc on va donner tel médicament à ce chat parce qu'il a cette mutation dans ce gène-là. Donc c'est de la médecine personnalisée, et on arrivera même à un stade où maintenant il y a de plus en plus de mutations de prédisposition qui sont identifiées. Par exemple, j'ai vu récemment un papier sortir, alors c'est pas encore c'est des données qui demandent à être confirmées, mais des variations dans des gènes qui prédisposent à l'obésité chez le chat. Et donc, on séquencera le génome de son chaton, il aura des variations dans ces gènes-là, oh, il est prédisposé à l'obésité, on va faire très attention à son régime alimentaire, même pendant sa phase de croissance, on va vraiment le surveiller pour éviter qu'il développe de l'obésité, et avec tous les corollaires qu'on a derrière à l'obésité. Donc on est dans ce type de démarche qui est de la médecine préventive personnalisée, où à partir du patrimoine génétique d'un individu, on va arriver à lui proposer un suivi médical approprié et personnalisé. Voilà pour l'avenir de la génétique chez le chat. Je vous remercie.
Prendre une ou deux questions, le temps qu'on fasse un changement d'ordinateur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie ? Oui, Johan, si vous pouvez prendre un micro, comme ça sera plus simple, s'il vous plaît.
C'était juste une rapide question. Pour les laboratoires, en fait, je voulais savoir, Marie, si le Louvre, ils acceptaient tous les laboratoires du moment, comme tu disais que c'était fait par un vétérinaire établi, le test ADN, ou si vous travaillez vraiment qu'avec quelques laboratoires précis, que ce soit pour la France aussi bien qu'à l'étranger.
Alors, il y a pour le moment, effectivement, une certaine liste de laboratoires qui n'a pas été décidée par le Louvre, on va dire. C'est que tout laboratoire peut postuler à partir du moment où il remplit les critères. Et l'un des critères essentiels, c'est l'authentification du prélèvement. Donc tout laboratoire qui demande à être reconnu par le LOF et que les éleveurs souhaitent utiliser, à partir du moment où il va répondre à cette nécessité, pourra être utilisé. En l'occurrence, si on parle du laboratoire qui est très utilisé par les éleveurs, l'Université de Californie, donc VGL à UC Davis, ils sont en cours de se mettre dans les clous pour cette authentification du prélèvement. Donc typiquement, ils vont pouvoir rentrer dans le processus. Donc le principe, c'est simplement que le labo soit fiable à ce niveau-là pour qu'on ne rentre pas des résultats de chats dont on n'est pas sûr de l'identité, quoi. Mais il n'y a pas de présélection d'un labo en particulier. Il faut juste qu'il rentre dans la charte, en fait. Voilà. Oui, je parle pour les maladies, là. Oui. Mais ça va être rediscuté plus tard. Mais là, sur les maladies... D'ailleurs, le panel s'est largement ouvert. Hein. Il y a de plus en plus de labos qui ont fait la demande. C'est bien, hein, parce que ça permet d'avoir une offre plus importante.
Je pense que VGS, c'est pour leur cercle aussi, mais pas que. C'est-à-dire qu'avoir des bases de données sans être sûr de ce qui rentre, au niveau mondial, il y a plein de lits qui vont demander la même chose. C'est pas juste un caprice, d'avoir des bases de données fiables.
Non, mais c'est essentiel, hein, parce que sinon, ça sert à rien.
Il faut mettre en recopie d'écran. Si vous n'êtes pas en recopie d'écran...